C'était vraiment génial ce magazine. T'as connu ?
Ah ouais, c'était vraiment bien.
T'étais un lecteur assidu de ce magazine ?
Oui, je pense oui, parce que j'écrivais dedans, donc ah il bien que je le lise.
Vous avez vu l'intro ? Elle était géniale cette intro. C'était une intro tonitruante. Alors en fait, aujourd'hui, je reçois...
Wonderfra.
Voilà, Wonderfra qui a officié sur Feu...
Player One.
Feu Player One. Et donc en fait, tu étais donc un testeur de Player One. Voilà. Du magazine ultra connu à l'époque, dans les années 90. Le pionnier, on peut dire ?
Le pionnier est le meilleur.
Ah, ça m'aurait étonné qu'il dise autrement de son ancienne maison, on va dire.
Oh bah,
parce que tu nous expliqueras un peu tout à l'heure, c'était vraiment une maison, c'était une fratrie.
C'était une famille.
Une famille, voilà, une famille. Donc, Player One. Donc, toi, tu es arrivé en quelle année, hein, Player One ?
En 90.
D'accord, au numéro 3, tu me disais ?
Numéro 3.
Voilà, jusqu'à la fin.
Jusqu'à la fin.
Voilà. Et donc, aujourd'hui, tu viens à Retro Game Test, on a la chance de te recevoir. Parce qu'on va jouer à un jeu, je vais même te laisser le dire.
Bien, c'est Rigard, un jeu d'arcade.
Voilà, parce qu'en fait, sur Player One, tu faisais quoi toi,
la rubrique arcade, voilà. Best of Arcade, exactement ça.
Voilà.
L'arcade dépasse les bornes, il y avait deux titres.
Voilà, donc on va commencer, je vais te rajouter les crédits. Alors.
Plus exactement, c'est Argos no Senshi, c'est la version japonaise.
Voilà, important de le dire. Je remets un petit peu le micro. Alors, juste pour dire, parce que tu m'as dit, moi j'aimerais bien tester Ragar. Alors, moi je me suis dit, ok, Ragar, c'est un jeu en plus que j'ai connu quand j'étais tout petit, j'allais dans le café d'à côté de chez moi. Mais est-ce qu'il y a des choses à dire sur ce jeu ?
Ah, il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu, parce que c'est un jeu qui a déjà, première chose, une maniabilité exemplaire. On peut faire plein de choses, on peut sauter bien sûr, tirer, mais on peut revenir en arrière dans son saut, ce qui est exceptionnel pour l'époque. C'est un des premiers jeux qui faisait ça en 86.
Voilà, donc c'est un jeu de 86. Juste pour situer un peu la chose, on joue sur... c'est la version arcade.
Oui, tout à fait.
Donc en fait, on joue... On reviendra tout à l'heure dessus. On joue sur une PCB. Non JAMA pour le moment.
Tout à fait. Voilà, à l'époque, ça n'existait pas, le JAMA.
Voilà. Donc voilà, alors je te laisse continuer, c'est un jeu de 86, tu dis que le maniement...
Voilà, donc le maniement est carrément exceptionnel. L'un des meilleurs de l'époque. Et surtout, c'est que c'est un jeu, il y a beaucoup de secrets. Énormément de secrets à trouver, qui est très long, il y a 27 stages.
C'est énorme.
Énorme, pour l'époque, pareil. Qui sont plus ou moins répétitifs.
C'est d'ailleurs pour ça que je te disais, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur le jeu.
Tout à fait, donc comme je disais, il y a plein de secrets. Donc là par exemple, c'est pas trop un secret, c'est que le temps vient de finir, on meurt pas, une créature arrive, une espèce de boule rocailleuse rouge, qui traverse l'écran, si on l'évite, elle revient de plus en plus vite, elle traverse l'écran de plus en plus rapidement.
C'est comme la mort quoi.
Voilà, c'est une mort, jusqu'à ce qu'elle nous tue. Mais ça donne un espoir de continuer à jouer et de pas perdre toutes ses armes.
D'accord.
Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les écussons. Les écussons, il y en a 5. Là, je viens d'en récupérer un, c'est le deuxième. Ça, c'est le tiers fort. Donc pour avoir...
C'est parmi les 5 qui est en bas, c'est ça que tu nous dis ?
Voilà, c'est ça. Il y a les pierres. Les pierres, hop, je saute à un endroit. Comme dans Ghouls & Ghosts, il y a une pierre qui apparaît. Dans Ghouls & Ghosts, c'est des coffres.
Exactement, ouais.
Ensuite, ici, raté.
Alors c'est un jeu, au-delà du fait... Bon, c'est un jeu action-plateforme, on peut dire.
Tout à fait, oui,
c'est action. Pour hardcore gamer, pour gamer. Scoring.
De scoring, c'est un jeu de scoring. C'est simple, quand on connaît le jeu, quand on arrive à la fin, on fait 2,5 millions à peu près. Et bien quand on connaît le jeu par cœur, on fait dans les 6 millions, 7 millions. C'est vraiment, il y a vraiment du score à faire.
Et quand tu dis plein de choses cachées, c'est qu'il y a énormément de façons de gagner des points.
Voilà, il y a plein de bonus.
Voilà. Mais qui sont vraiment tordus.
Il y en a qui sont plus ou moins tordus. Là par exemple, j'ai une étoile dans... j'ai une étoile. Quand on a 7 étoiles, il y a un bonus 70 000, ça apparaît en toute lettre, qui apparaît. Là, je vais essayer de faire le bonus 10 000, ici. Voilà. Hop, voilà, bonus 10 000. Il faut latter les hommes.
Léopard.
Léopard, de bas en haut.
D'accord. Dans l'ordre, quoi.
Dans l'ordre de bas en haut. Donc, ce qui n'est pas forcément facile à faire. Les deux premières fois, j'ai raté. Il peut y avoir des ennemis qui arrivent entre temps, donc qui l'empêchent de le faire comme il faut. Mm-hmm. Allez, j'ai réussi une fois pour vous faire montrer. Donc j'en viens aux écussons, là j'en ai qu'un pour l'instant, ça va être assez chaud pour passer, c'est pas très grave.
Donc celui-là, tu peux nous répéter celui que tu as, c'est quoi?
C'est le tir puissant, on peut avoir plusieurs ennemis d'un coup.
Tu transperces plusieurs ennemis.
Voilà. J'aimerais bien avoir le...
Alors ça fait penser à Mario Bros un peu, quand tu peux lui sauter dessus.
Oui, on peut sauter. Alors là, encore une pierre, il y a une étoile dedans, c'est toujours une étoile. Alors les pierres cachées, qui apparaissent quand on saute, voilà, le 70 000 vient d'avoir la 7ème étoile.
D'accord.
J'aurais peut-être pas dû faire comme ça, si, c'est pas grave.
Alors qu'est-ce qu'on peut dire graphiquement sur ce jeu?
À l'époque, en arcade, quand il est sorti, c'était sûrement le plus beau.
Ah, tu penses que c'était un...
Ah oui, on a franchi une étape avec ce jeu-là.
Avec un super beau scrolling en plus.
Scrolling différentiel.
Voilà. Avec une belle idée de l'animation, de la cascade.
La cascade, quand on a le son, avec le son, on pouvait entendre là que la cascade a fait un bruit.
Une petite animation, enfin
un bruit. A fait un bruit spécifique, un bruit spécifique de chute d'eau.
D'accord, voilà.
Donc voilà. Alors, ça veut dire, il y a un petit ange, un homme ailé. Ça veut dire que dans une pierre, un endroit, il va y avoir un homme ailé caché. C'est un one-up. Donc il y en a 4 ou 5 dans le jeu, il y a un nombre fini de. Je saute parce que normalement il est.
Et c'est quoi qui t'a plu dans ce jeu-là? C'est l'aspect scoring?
C'est j'adore les jeux d'action plateforme à la base. Donc ça fait partie de ça. Mais surtout, c'est que on y a joué pendant 3 semaines environ consécutives avant de terminer le jeu.
Et c'était il y a des années, ça, rappelle-nous.
Et c'était en 86. Ah, j'ai eu mon one-up.
D'accord.
J'aimerais bien avoir le tir lointain parce que.
Là, c'est un peu craignos, là.
Ouais.
Donc, tu as
c'est pas trop craignos, on peut passer, mais quand on n'a pas le tir lointain.
T'as vu ce scrolling différentiel, là, c'est magnifique. Ah, là, ça m'a. Moi, quand j'étais gosse, ça m'impressionnait techniquement.
C'est vachement bien, ça.
Moi, j'étais bluffé par rapport. Ce jeu-là, c'est ce qui m'a bluffé, c'est ça. Hein. C'est.
Alors là, ces ennemis sont marrants parce que si on se colle sur les pierres, on peut pas.
Oui,
ils peuvent pas
toucher.
Voilà.
Tu peux nous faire voir un petit peu pour qu'on voit
Pas trop là.
Non, pas trop.
Ah, il y a le truc qui vient d'arriver. Ça reste que 5 secondes à l'écran. Donc,
alors l'étoile, c'est quoi la première étoile?
Alors la première, c'est le tir lointain. Donc cumulé, ce qui est vachement bien, c'est cumulé avec le tir fort. Et ça permet d'avoir quasiment tout ce qui se présente à l'écran assez rapidement.
Et le tigre, qu'on voit en dessous?
Le tigre, ça permet de tuer les ennemis quand on est... Alors là, je vais faire un bonus 50 000, on va essayer. Voilà.
Excellent.
Ça tue direct les ennemis quand on leur saute dessus. Au lieu de les.
Les immobiliser. Parce que
au lieu de les immobiliser. D'accord. Si on n'a pas la tête de tigre, on immobilise.
Donc là.
Ah, tiens, le dernier qui arrive. Hop.
Et le dernier, c'est quoi alors? C'est ici là?
Tir en hauteur, au lieu d'avoir un tir.
Un
tir en horizon, en arc de cercle. Donc c'est le tir en hauteur qui est vachement bien pour le niveau qui suit. C'est un niveau où on va grimper à une corde.
D'accord.
Et il va y avoir un espèce de d'homme chauve-souris, de démon qui va nous tirer des trucs sur la tête. Et c'est vachement bien d'avoir le tir en hauteur à ce moment-là parce qu'on peut le démolir très facilement.
Et ce qui est marrant dans ce jeu-là, c'est qu'on voit par exemple le round là, où tu te positionnes dans le stage. Tu sais voilà. Quand est-ce que tu vas arriver à la fin du stage.
Ouais, c'est vrai, ça c'est aussi.
C'est un peu courant ça quand même.
Allez, surtout à l'époque. Il y a pas mal de petites choses innovantes. Et j'ai toujours rêvé qu'il y ait une vraie suite à ce jeu. Comme il y a eu Ghosts and Goblins, Ghouls and Ghosts, j'aurais bien aimé un Rigard et un deuxième Rigard exact qui reprend les fondamentaux, et mais qui soit à peu près même.
Il y a eu juste un remake sur PlayStation 2 et Xbox.
Voilà, mais c'est en 3D et c'est à part quelques petits détails. Alors là, on peut sauter 3 fois plus haut que normalement au départ de la corde. J'ai jamais compris pourquoi, ça sert strictement à rien. D'accord. C'est marrant.
Alors ça, c'est des passages qui sont... Alors, c'est ça. Voilà. Est-ce que tu penses que ce jeu-là...
Voilà, quand t'as déjà vu les parties que j'ai fait avant, où j'avais le tir en arc de cercle, c'était assez chaud à passer.
Et là c'est plus facile.
Ici, on se met là, on gratte les points pour faire avancer le score. Et ça permet, en fait, parce que les écussons qui apparaissent,
c'est tout le stat, hein,
j'explique. C'est pour avoir tous les temps d'ennemis tués, il y a un écusson qui apparaît.
D'accord.
Et qui tombe. Si on définit le temps en faisant ce que j'ai fait pendant.
Tu peux remplir ta jauge en bas, enfin tous tes objets.
Non, c'est ce qu'il y en a. Il y a plusieurs trucs qui tombent au début du round d'après.
D'accord. Ah, c'est marrant ça.
Voilà.
Mais après,
il y en a un qui est tombé là. Mais après, c'est plus des écussons, c'est des points.
Et c'est prévu. Les programmeurs ont prévu ça, tu penses?
Ça peut être un bug.
D'accord. Ni plus ni moins.
Voilà. Mais il y a beaucoup de bugs cachés qui permettent d'avancer. À l'époque, dans les jeux, il y avait beaucoup de bugs qui permettaient d'avancer dans les jeux plus facilement. Ça arrivait souvent. Donc là, c'est un stage assez, assez difficile. J'aimerais bien avoir du temps. Ah, ouais, j'ai du temps. Si on n'a pas de temps, c'est assez chaud à voir à cause des bestioles qui arrivent en haut.
D'accord.
Mais heureusement, il y a des pierres qui défoncent tout à l'écran, cachées. Et là, bien sûr, quand on est stressé et qu'on parle en même temps,
c'est pas évident,
on joue moins bien. Parce
c'était,
que
pas, c'était pas comme ça quand tu étais la rédaction PR1.
Oh, ça arrivait quand le rédacteur en chef vienne nous parler pendant qu'on jouait pour faire un truc et puis qu'on perde. Ah, il y avait pause sur les consoles.
C'est oui, là, il n'y a pas de pause, c'est une version arcade.
Voilà.
Alors, on a l'habitude à Retro Game Test de faire des comparatifs, des anecdotes par rapport à d'autres jeux. Mais moi, je vois pas vraiment, à part un seul jeu, auquel celui-ci se rapproche. En parallèle.
Je pense d'une part au niveau du système de scoring, la façon dont les scores apparaissent et ainsi de suite, dont les bonus apparaissent à l'écran, la façon dont ils sont effectués pour de ce qu'il faut faire pour les avoir, des actions qu'il faut faire pour les avoir. Il y a Raiden Fighters qui est dans ce principe-là. Bien sûr, ça n'a rien à voir, c'est un shoot 'em up. Donc un vrai shoot 'em up de l'époque. Voilà, fallait vite.
Et tu penses que ce jeu-là intéresserait les nouvelles générations ?
Peut-être. Alors là, le bonus 160 000, c'est quand on a les 5 écussons. C'est le dernier écusson. Je parle sur autre chose, je réponds à tes questions.
Non, mais il n'y a aucun souci. En plus, je vais dire un truc, mais si je le dis, j'ai peur que ça te porte la poisse, c'est que tu n'es pas mort une seule fois depuis tout à l'heure.
Oui, mais je vais pas prendre. Je vais essayer que ça continue depuis.
Tu vas essayer d'aller jusqu'au bout de la fin du test. Tu penses que tu y arriveras?
J'espère. Mais...
C'est quand même énorme.
Voilà.
Si tu arrives à ne pas mourir jusqu'à la fin du test.
Ça sera pas mal. Donc excuse-moi, je n'ai pas répondu à ta question.
Oui, est-ce que tu penses que nouvelle génération de joueurs, ceux qui jouent au next gen par exemple, seraient intéressés par ce genre de jeu?
Les next gen qui aiment bien les jeux DS, qui aiment bien les jeux DS et les jeux 2D de Nintendo qui sortent encore. Les gars qui aiment bien Castlevania sur DS encore. Tous les bons jeux en 2D qui sortent encore, les rares, il n'y en a plus beaucoup malheureusement. C'est de plus en plus rare. Oui, ils devraient aimer. Maintenant, les gens qui ont l'habitude de jouer à des jeux 3D et à la nouvelle génération de jeux. Ils vont avoir du mal à jouer à un Rigard, même si c'est un excellent jeu qui n'a pas perdu une seule de ses qualités de l'époque.
Parce que même s'il a un graphisme, alors tu vois, par exemple,
on va dire un peu ancien,
mais c'est correct.
C'est correct et c'est pas passé. Il y a plein de jeux qui paraissent pas beaux maintenant. Là, il est fin, il est en parfum, et la maniabilité reste la même. Le jeu paraît pas ralenti.
C'est un gros avantage.
Ah oui.
Pour un jeu qui vieillit, s'il n'est pas maniable, c'est mort. Il n'existe plus le jeu. Il n'a plus aucun intérêt. Et il y a beaucoup de jeux comme ça qui étaient techniquement très beaux,
oui,
mais qui n'avaient pas forcément un gameplay, mais qui ont eu un succès parce qu'ils étaient beaux, techniquement bien faits, et qui n'ont pas passé le temps. Quoi.
Exactement. Bah, l'exemple le plus frappant en arcade, un jeu qui est culte pour plein de gens, je leur déconseille d'y rejouer en arcade.
Si.
Double Dragon.
Non! Je ne suis pas d'accord avec toi.
Ah bah ça.
Ah non, sérieux?
Ah sérieux, ouais.
Je
connais.
Ah, j'adore.
L'un des membres de l'équipe de Player One qui est Matt Murdock, qui est un fan ultime de Double Dragon, mais un énorme fan. J'ai amené la carte d'arcade à l'époque à Player et il m'a dit mince, ça super vieilli, c'est ralenti, c'est.
On fera le test. En plus, j'ai prévu de faire ce test là.
Alors bien sûr, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont pas du tout être d'accord avec moi. Mais c'est malheureusement le cas.
Ouais. Après, c'est de la nostalgie, donc
le problème, c'est que le jeu, on le retrouve pas tel qu'il est dans son souvenir. On dit qu'un jeu n'a pas vieilli, que quand on le revoit, il est exactement tel qu'il est dans son souvenir. Et Rigard, il est tel qu'il était dans le souvenir.
Ouais, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ton.
Et le problème, c'est que Double Dragon, ça le fait pas. Ça ne fait pas le même effet.
Ah oui, c'est ça, c'est étonnant ça quand même.
Voilà.
Et alors?
Et surtout, c'est que tout le monde se rappelle sur Double Dragon, des ralentissements qu'il y avait à certains passages. Ça, c'est ridicule maintenant.
Je sais pas si t'as joué, ils ont refait une reversion sur Game Boy Advance. Magnifique.
Alors, ça, c'est possible, je ne dis pas. Hein.
Bah, je te prévois à la fin du test, je te prévois comment c'est. Et par rapport aux références aussi, je reviens sur ça.
Oui.
Moi, il me fait penser, mais il y a que ça qui me fait penser. C'est par rapport au personnage à Shell9. Atomic Runner, mais c'est tout.
Voilà, c'est le même genre de perso filiforme que Shell9. Sauf que la grande différence par rapport au gameplay, c'est que chez le 9, il ne peut pas se retourner, il se retourne avec un bouton. Et le scroll continue tout le temps, à avancer, ce qui peut être très, très pénible. Enfin, c'est une maniabilité vraiment particulière. Mais c'est très bien chez moi.
Voilà, mais c'est vraiment, il y a que vraiment que le personnage qui. Voilà. Alors juste pour parler d'un petit truc, parce que j'aimerais qu'on aborde ça, on essaye aussi quand on teste un jeu de parler un peu de la nostalgie, expliquer un peu l'arcade, parce que il y a des hardcore, des collectionneurs qui ça n'aura aucun intérêt pour eux, ce qu'on va dire. Mais par exemple,
voilà, je suis mort.
Voilà. Peut-être parce que j'abordais
pas du tout, c'est que un thème un peu. Je serais mort même en arcade. Là, j'ai oh, puis là, par contre, là, j'ai fait n'importe quoi.
Voilà. Alors oui, alors là, on joue à un jeu arcade. Donc, on joue sur un jeu. Bon, c'est pas un bon exemple parce que ce jeu-là, c'est pas un jeu au format Jama. On va expliquer ce que c'est le format Jama. Le format Jama, en fait, c'est qu'à l'époque, ils faisaient des cartes arcade.
Oui.
Et les cartes arcade, c'était un peu l'anarchie. Il n'y avait pas d'adaptateur, c'était chaque constructeur avait son branchement.
Voilà, ah, c'est ça. Expliquer. Exactement.
Ils avaient chacun leur branchement et c'est-à-dire que si moi j'étais
un peu comme pour les prises japonaises qui sont pas du tout les mêmes que les prises françaises en
voilà, c'est un exemple. Les prises électriques. Voilà. Et alors à un moment donné, le consortium arcade s'est dit bon, faut arrêter quoi. On est des exploitants, il y a des exploitants, ils achètent une borne, il faut acheter des adaptateurs, ça coûte de l'argent. À chaque fois qu'un jeu sort, il y a un nouvel adaptateur, c'est plus possible. Alors ils se sont mis d'accord et ils ont fait c'est-à-dire le branchement.
Je vais simplement dire un.
Vas-y.
Un petit truc par rapport à ça, c'est que c'est pas vraiment des adaptateurs, c'est que c'est le technicien qui recevait la carte, qui devait de la salle de jeu, qui devait se faire son propre adaptateur lui-même tout seul dans son coin.
Ah oui, carrément,
avec les schémas électriques qui sont fournis avec le jeu. Donc
c'est encore même plus. Mais il y avait des adaptateurs qui se vendaient quand même à l'époque.
C'est plus si branché avec les fiches, je sais pas trop comment ils agissent, je m'y connais
et
pas
voilà.
trop.
Alors en fait, ça c'est un jeu Jama. Voilà, en fait, ça ni plus ni moins, c'est ce qu'il y avait dans une borne arcade. Alors là, le jeu que j'ai ici, c'est Ghouls and Ghosts. Et pour vous donner une idée de Ghouls and Ghosts, en fait, ce jeu-là, Ghouls and Ghosts, il est sorti sur Mega Drive et sur Super Graphics.
Ouais.
Sur d'autres consoles aussi, hein. Enfin, plutôt sur du micro-ordinateur. Et voilà. En fait, ça, c'est la version, pour vous donner une idée, ça, c'est la version Super Graphics. Et ça, c'est la version Mega Drive. C'est quand même énorme.
Ouais. Il y a une grande différence de taille.
Voilà. Voilà ce que vous aviez en arcade à l'époque. Ce qui peut justifier le fait que le jeu était peut-être plus puissant à l'époque.
Oui, bien sûr, parce que oui, bah, regardez le nombre de ROM, voilà. Je sais pas si on peut le voir à l'écran, mais les petites puces,
c'est pour vous faire voir un petit peu ce que c'était la différence.
Les puces rectangulaires, c'est les ROM, c'est les graphismes, c'est le son, c'est tout ce qu'il y a dedans, et le reste de la carcasse, c'est pour faire fonctionner le tout, en fait.
Voilà. En fait, c'est ni plus ni moins, pour vous donner une idée, c'est que c'est la console et le jeu en même temps.
Voilà.
C'est la console et il y a le jeu en même temps. C'est-à-dire que les cartouches que vous avez voir tout à l'heure, il y a une Mega Drive. Donc c'est normal, si on mettait les deux en même temps, ça prend de la place. Donc là, c'est pareil, c'est une console et le jeu intégré dans son la même.
Voilà.
En gros, c'est ça. On va peut-être revenir un petit peu, on arrive bientôt en plus à la fin du test.
Mm-hmm.
Il y a d'autres choses à dire sur Rygar
Oui, il y a encore quelques trucs à dire par rapport à pas mal de choses à dire par rapport aux astuces, au gameplay. Par exemple, là, je vais arriver bientôt au 13e niveau. Alors, ça va être très très difficile pour que je. Déjà, je suis pas sûr que je vais y arriver, d'une part. D'une part, surtout si je joue comme ça. C'est que le 13e niveau, il y a 27 niveaux, comme j'ai dit, 13e niveau. La moitié du 13e niveau, c'est la moitié du jeu. Et là, il y a un bonus extraordinaire qui a été découvert sur le tard. Pas tout de suite, environ un an après. Qui se trouve exactement la moitié du jeu, qui est caché. Il faut taper une quinzaine de fois un endroit invisible, où il n'y a rien. Au moins une quinzaine de fois, et une caisse tombe, et là, il y a un bonus de 1 million.
Mais alors ça, comment ça a été découvert? C'est les programmeurs qui ont dit, allez, bon, on vous donne un secret? Ah, c'est impossible.
Il aurait fallu que je saute.
Voilà. Tu penses que c'est ça, c'est les programmeurs qui ont lâché
C'est possible, et puis... alors, il me semble que vers la fin du jeu, on voit une stèle... en décor. Parce qu'à l'endroit où ça se fait, il y a aussi des étoiles cachées. D'accord. Qui sont dans l'air. Il faut tirer dans l'air, il y a des étoiles qui apparaissent. Et ces étoiles, on revoit ces étoiles sur une stèle, avec la disposition et tout, la même disposition. Ça fait la grande ours.
D'accord, je vois ce que tu veux dire.
Et enfin la queue de la grande ours plus exactement. Alors là, on va la passer à l'arrache.
Alors juste une chose, c'est qu'il n'y a pas de boss dans ce jeu-là. À part le boss de fin, final.
Voilà, et on peut dire que le géant bleu est un sorte de boss. Il faut 3-4 coups normaux de fort pour le tuer.
D'accord.
On peut dire que c'est une espèce de boss. Qui revient toutes les 4 niveaux.
D'accord. Alors voilà, on va arriver à la fin.
Au fameux 13e stage. D'accord. On va essayer d'arrêter là. Je vais essayer de le faire.
D'accord. Et juste une chose, parce qu'on a la chance de te recevoir. Player One, quand même. Alors, raconte-nous un petit peu l'ambiance qu'il y avait à Player One, un peu.
L'ambiance de Player One, c'est simple. On arrivait le midi, on mangeait avec les potes, après on testait les jeux, on se marrait, on bouffait le soir ensemble, et deux fois on passait la nuit à jouer, et à tester les jeux, à bosser, à écrire aussi, parce qu'il fallait le faire. C'était important. On va arriver à l'endroit en question.
Où il y a le sort
ouais,
de bonus.
Ouais.
Ah bah c'est vrai, mais on va le voir en plus. Ouais, donc c'était vraiment la fête. Est-ce que tu...
Alors là, il y a les étoiles ici. Voilà, elles apparaissent dans l'air.
Tu peux pas les prendre, mais c'est comme
ça. On peut les prendre.
Ah, tu peux les prendre.
Mais rien que le fait de les
faire apparaître,
ça compte comme une étoile pour le compte des 70 000. Alors là, faut tirer. Là, il va falloir le faire 15 fois avec ce tir. Donc ça va pas être simple.
Et qu'est-ce que j'allais dire
C'est au-dessus de l'étoile qu'on voit là.
D'accord. Oui, et maintenant toi tu officies toujours en tant que dans un magazine. Et c'est fini maintenant ça, cette ambiance.
C'est impossible. Peut-être pas dans tous les magasins, dans toutes les boîtes, mais avec ça, ça sera mieux. Le voilà.
Oh c'est énorme ça quand même.
Voilà. Donc maintenant j'ai montré tout ce que je voulais montrer sur le jeu.
Salut. À la prochaine.
Merci. Vous avez vu en plus quand j'ai attendu l'ennemi, il était super rapide.
D'accord. Oui, alors je disais, maintenant c'est fini ça, maintenant tu retrouves plus ça. Oh, tu restes à la maison, tu fais tes articles à la maison.
Voilà. Et on perd une ambiance de rédac. Alors on est plus cool, on est chez soi. On bosse plus efficacement aussi parce qu'on est chez soi. On n'a pas les potes qui viennent dire ah tiens viens faire une partie avec moi, ouais. Viens boire un coup au resto, viens faire un truc, viens faire ceci cela. Mais on perd une convivialité et dans les tests, à mon avis, ça se ressent. C'est moins fun à lire. Du moins, on peut faire des tests fun, mais c'est plus difficile de faire des tests fun quand
t'as pas. Il y a pas d'ambiance de rédaction à l'époque, on avait souvent ça.
Voilà, c'est ça. Et ce qui fait que bon, je trouve ça vraiment dommage. Ça, vraiment, pour moi, cette époque-là, c'était l'époque dorée de la presse. Parce que bon bah on était une bande de copains qui se retrouvaient, qui adoraient se retrouver ensemble et on se marrait et puis voilà quoi. Moi j'ai des souvenirs, j'ai cité Matt Moreau tout à l'heure, mais Mec Brevet c'était super culture de jeux vidéo.
Donc Cyril Brevet. Officier sur Télévisateur 2, qui était à Player One avec toi.
Sur Player One TV, qui a existé sur MCM aussi. Et qui maintenant est toujours à la télé et que je suppose que ça se passe super bien pour lui. Et que j'aimerais revoir aussi de temps à autre, ça fait longtemps.
On aimerait bien le voir aussi un jour, ça serait bien.
Ça fait super longtemps.
Ouais, donc il y a plein de joueurs comme ça qui
étaient. Chris qui est un super joueur, qui est le gars qui écrivait le mieux de la rédac, qui avait un talent fou d'écrivain, qui arrivait à 14 ans dans la rédaction de Amstrad 100%, qui était le grand frère de Player One. Et qui restait parce qu'il écrivait super bien et qu'il jouait très bien aux jeux vidéo. Et on était tous des très bons joueurs de jeux vidéo. Enfin, des bons joueurs de jeux vidéo et des passionnés surtout. C'est ça qui était important.
D'accord, je vois ce que tu veux dire.
Et
donc tu es nostalgique, on va dire, de cette époque-là.
Oui.
Et moi, je suis pas nostalgique. Enfin, maintenant les magazines font toujours. Enfin, ça va. Mais c'était le rétro gaming. Enfin, c'était les jeux en 2D.
Bah voilà,
il y avait une ambiance, on le sentait vraiment quand on lisait un magazine.
Les jeux en 2D ont quasiment disparu, des genres de jeux ont quasiment disparu. Un genre de jeu qui était phare dans les années 90, même jusqu'encore en 2000, les puzzle games. Quel est le dernier puzzle game sorti? Ça fait super longtemps. Alors on va dire ouais, peut-être les Kawashima, les trucs comme ça. Mais non, pas un espèce de Tetris qui a fait fureur. Le dernier concept à la Tetris qui est sorti, ça fait super longtemps. Puzzle Bubble, bien sûr, mais c'est Puzzle Bubble, ça date de la Neo Geo, du début de la Neo Geo quasiment. Donc c'est vieux. Les shoot'em up traditionnels en 2D, on en voit plus. Enfin, très peu, c'est sur compte-gouttes. Les bons jeux d'action plateforme, c'est du compte-gouttes. C'est dommage.
Voilà, donc t'es... Ouais, t'as connu tout ça vraiment. Le fait
ça veut pas dire que les jeux 3D sont mauvais, hein, c'est pas la question. Hein, c'est rien.
Non, ils sont très bons les jeux 3D.
Ouais,
moi je suis vraiment pas sectaire dans le.
Et puis, il y a des jeux qui ont mal supporté le passage en 3D. Il y a des jeux qui ont très bien supporté. Zelda, le passage en 3D, fabuleux.
Fabuleux, ouais. Même si j'y ai pas joué, tout le monde dit que c'est fabuleux. Je dirais que c'est fabuleux.
Ouais, donc il y a d'autres moins. Alors, bien sûr, tout ce qui est aventure, ça passe bien en 3D maintenant. Jeux de course, bien sûr, ça paraît évident.
C'est normal, ouais, bien sûr.
Maintenant, les jeux d'action plateforme en 3D, même moi qui suis un fan ultime de Mario, je trouve que c'est légèrement moins bien en 3D qu'en 2D. C'est mon avis. Hein.
Après, c'est plus un avis.
Voilà.
Même si j'y ai pas forcément joué, je dois reconnaître que c'est quand même assez sympathique.
Ah, il y a des bonnes idées, c'est toujours pareil.
Hein. Quel stage là, non
15.
D'accord, ouais,
on va arrêter quand. Je continue à jouer, mais c'est bon, ouais. De toute façon, je suis moins crispé, j'ai fait tout ce que je voulais faire.
Voilà, tu nous as fait voir ce que t'as voulu. Bah écoute, franchement, Wonder, je te remercie. Donc,
c'est moi qui vous remercie.
Est-ce que tu te souviens, j'espère que tu remercies les spectateurs qui regardent.
Ah, bah, bien sûr.
Les internautes qui regardent. Parce que moi, tu ne me vois pas, j'espère.
Bah non.
Est-ce que tu te souviens de... Oh là, j'ai même le micro qui s'en va. Là, en plus, quand tu remets un micro, tu sais, ça fait... Est-ce que tu te souviens de...
Les aléas du direct.
Et franchement, c'est très important. Alors, vas-y, tu te souviens de ça?
Ouais, bien sûr.
Ah, c'était
c'est le numéro 100.
Le numéro 100, ouais, exactement.
Ouais. Et alors, petite anecdote, quand j'ai vu le papier sur moi, j'ai été très vexé à l'époque. Ouais. Et maintenant, je trouve monumental. Donc,
regardez le numéro 100. Vous avez.
Je rassure tout de suite le gars qui a fait le truc sur moi. C'est moi qui ai fait le truc sur lui. Donc.
C'était une petite guéguerre gentille.
Gentille, bien sûr.
De rédaction très cool, quoi.
Voilà.
Voilà, donc j'ai des numéros.
Mais c'est très vrai ce qui est écrit en plus dessus. Je suis un peu comme ça. C'est exagéré, c'est comme toutes les caricatures.
Je suis vachement fan de la première heure en plus de Player One.
À l'époque où c'était à 8 francs ou à 10 francs, je sais plus.
15 francs.
Et je pense qu'il y a eu moins sur le numéro
17 1. 17 francs, 15 francs. Là, on commence au numéro 3.
Le numéro 1, je crois qu'il était à moins de 10 francs.
Ah, c'est possible alors. Bon, bah écoute, Wonder, c'est super cool d'être venu. On te reverra une prochaine fois, tu reviendras nous voir, ça t'a plu?
Merci, ouais, franchement, c'était sympa.
Ah, bah, c'est cool, ça m'a fait plaisir que, comme ça, en plus, que les gens puissent revoir les anciens testeurs, je pense que c'est...
C'était vraiment un plaisir, de te voir, de voir comment c'est chez toi. Ah, le point d'interrogation. Là, j'ai le cinquième,
T'as vu, notre studio, il est sympa, hein.
Ah oui, alors, c'est la police, son studio.
Allez! Vous aurez compris la...
Hop, ouais, le dernier secret, je le laisse sur la fin. Voilà. Voilà, vous l'avez vu, j'ai pas pu l'expliquer.
C'est pas grave, à eux de comprendre.
Merci à tout le monde de regarder cette superbe émission.
Ah, ça te plaît, c'est...
Ah oui, ouais, franchement, de toute façon, tout ce qui est rétro gaming, moi, j'aime.
Voilà. Ah bah, c'est gentil. Ça fait plaisir parce que ton travail me plaisait à l'époque.
Ah bah...
Bah, même maintenant, hein.
C'est réciproque.
Et puis, que ton travail te plaise, notre travail te plaise, c'est cool. Bon bah, quant à nous, on se dit à la prochaine. On a un petit peu débordé, mais bon, dans ces cas-là, on va dire que c'est pour la bonne cause. Et puis, bon, on se dit à la prochaine.
Ah bah, c'est avec plaisir.
Bah, je te laisse dire le mot de la fin. J'aime bien en ce moment, je dis aux gens.
Alors, le mot de la fin, c'est ma phrase culte en ce qui concerne les jeux d'arcade, que je n'ai pas appliqué ici. Un jeu d'arcade, ça se termine en un crédit ou ça se termine pas. Avis aux amateurs.
Avis aux amateurs. Salut.